Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, pour ce tourne-page, je vais vous proposer deux livres qui présentent, chacun à leur manière, les ressources de la foi. Deux livres. Le premier est signé Guy Gilbert, « Vie de combat, vie d'amour ». On commence à A, on termine à Z, et pour chaque lettre, un ou plusieurs témoignages décapants. C'est édité chez Philippe Ray, et ça coûte 20 euros. Le deuxième est signé Henri-Jérôme Gagé. Il s'intitule, justement, « Les ressources de la foi ». C'est édité chez Salvador, ça coûte 21 euros, d'un tout autre genre. Mais chacun à sa manière propose la foi en Dieu, en Jésus-Christ, comme carburant pour mener sa vie. Ils se répondent l'un à l'autre. Je cite « Le christianisme primitif est dépositaire de structures normatives ». Il s'ajuste à la vie de l'Église, se réélabore, et en entrant dans la trace biblique, se découvre que toute naissance est déjà précédée. Ainsi, nous dit Jérôme Gagé, pasteurs et croyants entrent avec toute leur créativité dans la responsabilité de rendre l'Évangile de Dieu désirable. Et il nous dit aussi, la Bible est alors un texte classique largement disponible. Texte largement disponible, dit l'un. Chez Guy Gilbert, cela donne « Tu es chrétien et catho, donc tu crois en Jésus-Christ vivant. T'es encore jeune, t'as des doutes, c'est normal. Alors, bûche ta foi, ne mélange pas tout. Va jusqu'au bout de ta foi catholique. » Pourquoi je trouve ce livre de Guy Gilbert sympathique ? C'est parce que on peut picorer ici et là, avec une lettre, il y a avec C, correction fraternelle, en face, mais aussi correspondance, ou curé cache, il faudra que vous alliez voir. Il y a aussi église vide. Je vous lis ce passage. La foi semble foutre le camp doucement, lentement, inexorablement. Pour beaucoup, elle prend sa fuite dans un seul aspect, les églises vides. Un jour, je célèbre en haute Savoie dans un petit bourg. Les cinq premiers rangs sont vides. Le peuple d'anciens se ratatine à l'arrière, prêt à sauter dans le vide de l'athéisme à la première alerte. 8 jours après, dans une église identique, le même peuple, éparpillé cette fois. C'est terrible de parler à des bancs vides ou de chercher désespérément à travers les individus disséminés quelque chose à vivre ensemble. Les enterrements, par contre, affichent souvent complet. La mort rassemble encore les gens. C'est toujours ça. Mais quelle signification religieuse en tirer ? L'aspect de ces églises devenues désertes nous marque et nous fait croire à la perte de la foi. On recherche la foi. Mais elle est là, en France, partout, et notamment dans ces cellules témoins. Seulement la foi s'est déplacée lentement des églises à la rue, au lieu de travail, au cœur des immeubles. Et c'est tant mieux. Cette foi-là est moins visible, moins triomphante, et a besoin d'innombrables laïcs pour l'enraciner dans le quotidien, le silence et la prière. C'était pour la lettre E. Allons à la lettre F. Voici l'histoire du foulard blanc, que je raconte souvent. Elle agit comme une prière de guérison. Jean avait sali ses parents, le genre d'affaire qui détruit un peu la réputation. Et le père avait dit à son fils, « Jean, fous le camp. » Jean est parti. Quelques semaines plus tard, pris de remords, il se dit, « Je suis vraiment un salaud. Il faut que je demande pardon à mon père. » Mais il avait tellement peur que son père le jette de la maison qu'il préfère lui écrire. « Papa, vraiment, je vous ai tous salis, je te demande pardon. Je voudrais tant revenir à la maison. » Je t'écris. « Je ne te mets pas mon adresse, j'ai tellement peur que tu me dises non. Si tu me pardonnes, mets un foulard blanc sur le pommier devant la maison. Tu sais, la grande allée des pommiers. Mets un foulard blanc sur le dernier pommier. » Quelque temps plus tard, il dit à son ami Marc, « Accompagne-moi, je dois savoir. Voilà ce que nous allons faire. Je te conduirai chez moi. À 500 mètres de la maison, tu prendras le volant. Je me mettrai à côté à la place du passager. Je fermerai les yeux. Tu descendras l'allée des pommiers. S'il y a un foulard blanc, tu t'arrêteras. Alors je foncerai à la maison. S'il n'y a pas de foulard, jamais plus je ne reviendrai. » Ainsi dit, ainsi fait. À 500 mètres, Jean donne le volant à Marc, s'assied à la place du passager. Et la voiture descend la grande allée des pommiers, jusqu'au dernier pommier devant la maison. Et Jean demande à Marc, « S'il te plaît, dis-moi si mon père a mis le foulard blanc sur le pommier. » Marc répond, « Non, Jean, il n'y a pas un foulard sur le pommier devant la maison. Il y en a des centaines. Tout au long de l'allée, chaque arbre en est couvert. » Frères et sœurs chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, musulmans, juifs, athées, agnostiques, soyez des êtres de miséricorde, que vos cœurs fourmillent de foulards blancs. Vous connaissez les mots qui commencent par M ? En voilà plusieurs. Marco dans le cockpit. Marie, c'est le plus beau cadeau de Dieu. Il y a « Tu marieras ma fille ». Il y a « Monseigneur Marty ». Mec imprévu. La mort. Mais il y a aussi « La mob du vicaire ». C'est celle-là que je vais vous lire. Un matin, un des vicaires de l'équipe sacerdotale du 19e de Paris, dont je fais partie, arrive affolé. « On m'a volé ma mobilette cette nuit. » Je lui réponds de ne pas s'inquiéter, et j'enquête. Parmi les hordes matinales qui nous assaillent, il doit bien y avoir un mec au courant. Effectivement, je retrouve le voleur. Je le mets au parfum. « T'as piqué la mob de mon pote le curé, ça ne se fait pas. »« Ah, ok, » me répond-il, « je lui rends. » Comme le gars l'avait désossé la nuit, il la reconstitue et la met en marche pour la rendre. Il constate alors que le moteur n'en peut plus, qu'à cela ne tienne. Il repère très vite une mobilette neuve du même type, en vole le moteur et le met à la place de l'autre. Pour faire bon poids, il pique deux sacoches neuves et fait porter la mobilette à l'église de mon copain. Mais pas avant de lui avoir acheté un antivol dont il envoie la clé au vicaire avec ce papier griffonné, « Voilà votre mobilette, je vous offre l'antivol pour ne pas qu'on vous la pique. » Le curé ravi découvre les jours suivants que son tas de ferraille est devenu un Airbus 380. Comme il se pose après coup quelques questions de morale sur ce moteur gonflé, je lui dis de fermer les yeux, enfin, pas en roulant, et que le Seigneur reconnaîtrait les siens. La prière de Noël est de circonstance. Guy Gilbert l'introduit ainsi. Je vous laisse cette prière cruelle et vraie, lue quelque part. Merci mes frères, j'avais faim et vous avez fondé un club à but humanitaire où vous avez discuté de ma faim, je vous en remercie. J'étais en prison et vous vous êtes glissé à l'église, priant pour ma libération, je vous en remercie. J'étais nu. Et vous avez examiné sérieusement les conséquences de ma nudité. J'étais malade, et vous êtes tombé à genoux pour remercier le Seigneur de vous avoir donné la santé. J'étais sans toi. Vous m'avez prêché les ressources de l'amour de Dieu. Vous paraissez si pieux, si près de Dieu. Mais moi, j'ai toujours faim, je suis toujours seul, nu, malade, prisonnier et sans toi. J'ai froid. Bonne nuit de Noël. C'est vrai que c'est un peu dur. Avec O, officier de la Légion d'honneur. Saviez-vous que Guy Gilbert avait été décoré? Il y a aussi ordination dans la cathédrale de Paris. Lorsque j'assiste à l'ordination de jeune prêtre, je me rappelle la mienne. C'est un des plus grands moments de l'année parce qu'il témoigne de la relève, parce qu'il me rappelle aussi que j'ai été choisi. Je ne passe pas une journée sans en remercier Dieu. Ouvrier aussi, ouvrier de l'universel. L'homélie que j'ai faite en mariant la fille du roi des Belges en 2003 a été unanimement saluée. Pourquoi ? Parce que ma vie auprès des plus pauvres m'a permis de trouver les mots qui ont bouleversé les 1500 têtes couronnées ou nobles qui emplissaient la cathédrale de Bruxelles. Je dois aux petits d'avoir trouvé les mots qui ont touché les cœurs des plus riches. Si je ne parlais qu'aux riches, les pauvres ne le comprendraient pas. Si je parle aux petits d'abord, je peux être entendu par les plus nantis. Le Christ, notre Maître, l'a suffisamment montré durant sa vie pour que nous, ses disciples, nous nous inspirions de lui. La priorité de chaque chrétien est l'évangile à vivre et à proclamer. Trop d'évangiles sont brandis par des groupes de chrétiens, comme des barrages, des propriétés privées, des enclos fermés. L'évangile annonce l'amour sans exclusive, c'est-à-dire pouvoir être avec les voyous sans rejeter les flics, avec les pauvres en ouvrant sa porte aux riches, avec les humbles sans avoir peur de fréquenter les puissants, avec les ouvriers sans oublier leur patron. Et puis pour P, il y a l'inévitable pape François. Chaque pape a son génie. Le pape François dit les choses avec simplicité. Au magistère de l'écrit, il oppose une magnifique liberté de parole contre la misère, contre la violence, contre les déviances de ses propres coreligionnaires, des cardinaux même. Ne les levons pas au-dessus des autres papes. Ces derniers étaient tout aussi dévoués. Mais reconnaissons que parfois, ses prédécesseurs usaient un peu trop de réflexion théologique. Le langage direct de François séduit. Ses mots sont d'une simplicité extraordinaire. Si son verbe n'a pas changé le dogme, en revanche, il change l'institution de façon étonnante. Ainsi, pour chaque lettre, quelques histoires qui portent à réfléchir, qui montrent que l'Évangile, c'est partout et pour tous. Je rappelle Guy Gilbert, Vie de combat, vie d'amour, c'est édité chez Philippe Ray. Avec Henri-Jérôme Gagé, la manière est différente, mais la question posée est la même. Je le cite. La question est ici de savoir si l'annonce de l'Évangile concerne aussi ceux qui, sans le secours de la foi chrétienne, croient assez dans leur vie pour s'engager dans le mariage et faire des enfants, diriger une entreprise, animer syndicats et associations, construire des villes, des routes, des ponts, écrire un livre sans savoir s'il sera lu, s'asseoir des heures au chevet d'un mourant et lui tenir la main. Ces hommes et ces femmes dont le témoin de l'Évangile croise la route et avec lesquels il collabore quotidiennement sont ses partenaires dont il reçoit beaucoup en raison de leurs compétences, de leur générosité, de leur grandeur d'âme. Il ne peut pas ne pas reconnaître en eux les bâtisseurs de paix et les assoiffés de justice que le Christ déclare heureux. Heureux ceux qui, sans le connaître, lui ont donné à manger, à boire, quand il avait faim et soif, l'ont habillé quand il était nu et visité quand il était malade. Vivre, c'est s'élancer sans appui, sans rien de ferme sous les pieds, en réponse à une parole qui appelle à la confiance et à la responsabilité. Cette parole, en cette période de Noël, qui s'appelle Jésus-Christ. Alors, bonne lecture à tous. Henri-Jérôme Gagé, Les ressources de la foi. C'est édité chez Salvator. Bonne fête de Noël et de fin d'année à tous.